Rebonjour à chacun. Bonjour à certains. Nous sommes aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu. Quand je dis « dans », c'est parce que la parole de Dieu est un lieu où nous pouvons demeurer. Dieu est un lieu où nous pouvons trouver une place. Même si dans nos vies on est à l'étroit, en Dieu il y a de l'espace. Dans la tradition juive, on appelle Dieu « hammakom », ça veut dire le lieu. Parce que Dieu est un lieu. C'est lui qui a créé tous les lieux, qui a créé tous les espaces. Et en lui, il y a de l'espace. L'espace que nous avons besoin, c'est dans la relation avec l'autre. Et la relation avec le grand autre, c'est avec Dieu. Et la parole de Dieu est ce lieu de rencontre privilégié. Vous le rencontrez, Dieu, à travers toute la création, si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Et la parole de Dieu, la Bible, est un lieu spécifique dans sa forme écrite. La parole de Dieu vivante, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu parfaite. La parole écrite, la Bible, est un lieu très important de rencontre avec Dieu. Et aujourd'hui encore, mon seul but, c'est de vous inviter à cette rencontre à travers cette parole qui est toujours vivante, qui a vécu pendant 2000 ans et qui continue à vivre dans le cœur de beaucoup. Que cette parole aujourd'hui soit vivante dans vos cœurs, ça sera ma prière. Commençons par un mot d'invocation. Seigneur, je ne veux pas prêcher ma parole, je veux prêcher ta parole, la vraie parole vivante, celle qui donne vie dans ma vie et dans nos vies. Donne-nous d'être attentifs à ta parole, à entendre, à nous laisser interroger par toi, comme toi, Jésus, tu interrogeais tes disciples, avec grâce, avec douceur et avec humilité. Et que nous puissions te répondre, te dire où nous en sommes, pour que, en prenant ta main fermement, nous puissions avancer un cran plus loin dans le chemin de la grâce, de la vie, de l'amour, de la sainteté. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous continuons le chapitre 16 de Matthieu. Le chapitre 16 de Matthieu, c'est comme une transition. Dans cet évangile, Matthieu décrit comment Jésus est né, comment il a été protégé, comment il y a des mages qui lui ont offert des cadeaux, comment il a été ensuite protégé en allant en Égypte avant de revenir en Israël, comment il a été baptisé, comment il a commencé le ministère, guérissant des personnes, prêchant, enseignant, chassant des démons, touchant des personnes, les invitant à croire. Et on arrive à une nouvelle étape. Après cette étape, Jésus ne fera quasiment plus de miracles. Il ne fera que des enseignements quasiment à des petits groupes. Les enseignements seront limités aux petits groupes de ses disciples. Il est en train de préparer la prochaine étape. Il est en train de préparer l'étape fondamentale, où ses disciples, ceux qui le suivent, vont suivre son exemple. Quand lui ne sera plus là, afin que eux puissent porter sa parole de vie, puissent apporter sa transformation dans ce monde. Ce passage, c'est le passage que chacun des disciples que le Seigneur veut que nous soyons a à faire. De lui-même devenir lumière. Vous avez à être enseigné par la parole de Dieu, vous avez à l'enseigner. Ce n'est pas une option, c'est un appel de Dieu. Et cette suite, c'est ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous, comme il le montre à ses disciples dans ce chapitre. D'abord, il y a eu la rupture avec les pharisiens. Il leur a dit « Je vous donnerai plus de signes, c'est fini. Vous avez eu assez de signes, vous en demandez encore, il y aura le signe de Jonas. » C'est quoi le signe de Jonas? Sa mort et sa résurrection. Ne séparez jamais la mort de Jésus de sa résurrection. Quand vous faites cela, vous vous tournez vers du morbide. Il y avait un film chrétien qui a été vu par le plus grand nombre dans ce monde, il y a à peu près quelques années. Un film fait par un monsieur qui avait fait un film, il s'appelait La Passion. J'ai à être honnête avec vous, je ne l'ai jamais regardé ce film. Et je ne veux pas le regarder. Je vais vous dire pourquoi. Il accentue seulement la mort de Jésus et pas sa résurrection. Ça, c'est un manque. Alors, vous pouvez utiliser ce film pour toucher des personnes, mais vous devrez ajouter le morceau qui manque. Jésus est ressuscité. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le film La Passion?
Oui.
Levez la main ceux qui l'ont vu. Est-ce qu'on parle de la résurrection dans ce film?
Non. Ça va être une crucifixion, en fait.
Ce qui fait que dans le monde arabe, les gens l'ont montré parce qu'ils étaient contents, ça pouvait donner l'impression que le peuple juif, c'était ceux qui avaient tué Jésus, et il y avait suffisamment peu d'éléments sur la résurrection pour qu'on puisse détourner le message chrétien pour en faire un message pour les musulmans qui voulaient mépriser le peuple juif. Est-ce que ce film peut être tourné par des chrétiens pour apporter la vie? Oui, je le crois. Mais s'il n'a pas de personne pour accompagner, il y a un manque flagrant dans ce film, c'est la résurrection. Et Jésus ne prêchera jamais sa mort sans la résurrection, même si les disciples ne le comprendront pas toujours. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Donc d'abord, Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» On a vu dans le chapitre 16, et on a Pierre qui répond avec une inspiration qui vient de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui lui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et à travers ce message, à travers cette parole, Jésus lui dit « Oui, c'est exactement ce que je suis. Et toi, Pierre, tu seras un fondement pour cette Église. Tu joueras un rôle. Tu seras une pierre qui aidera à construire l'Église. Qui c'est la pierre d'angle sur laquelle l'Église est fondée ?
Jésus.
C'est Jésus-Christ. Est-ce que Pierre sera la pierre d'angle ?
Non.
Non. Est-ce qu'il sera une pierre importante ? Très importante. C'est à travers lui que le message de l'évangile va être amené, après la mort de Jésus, aux Juifs. 3000 seront baptisés lors de la première prédication, après la Pentecôte, par Pierre. Ensuite, c'est Pierre qui va baptiser dans l'esprit les premiers Samaritains. C'est lui qui va aller apporter le salut aux premiers non-Juifs et non-Samaritains, qui va être Corneille. Actes chapitre 10 et chapitre 11. Un homme romain, et il va être baptisé de l'esprit, comme les autres. Pierre va ouvrir ces trois portes. C'est vraiment lui qui ouvre les clés, avec les clés des portes, les portes des cieux, à travers sa prédication. Et après, il a fait sa tâche. Qui devient le messager chrétien le plus important dans la fin du livre des Actes des Apôtres ?
Paul.
Après le chapitre 11, vous n'entendez presque plus parler de Pierre. Un petit peu au chapitre 15. Mais c'est Paul, jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que Paul sera celui qui va amener l'évangile jusqu'à Rome, le centre de l'Empire de l'époque, le centre administratif de l'Empire romain et politique. Et ensuite, après Paul, est-ce que c'est fini, l'Église, c'est fini ? Il n'y aura plus d'autres messagers ?
Si,
il y en aura d'autres. Est-ce qu'on va dire l'Église ne dépend que de Paul ?
Non.
Non. Est-ce qu'on va dire l'Église ne dépend que de Pierre ?
Non.
Est-ce qu'ils ont été importants ? D'une importance capitale, fondamentale. C'est ce que nous apprenons ici. Mais même s'ils sont d'une importance capitale, ils n'ont pas toujours compris ce que Jésus voulait. Et il y a des fois où Jésus a dû les corriger parce que finalement, ils étaient des personnes clés. Tout comme vous êtes des personnes clés pour annoncer l'évangile autour de vous. Et des fois, vous allez comprendre et Dieu vous dira « Tu as bien compris, mon fils, ma fille. » Et des fois, il vous dira « Tu es à côté. » Même si vous êtes Pierre, donc même un pasteur peut être corrigé par Dieu, c'est ce que nous devons nous rappeler. Nous devons écouter la parole de Dieu qui nous remet en place et qui nous rappelle le fondement du message de l'évangile. Jusqu'au verset 20, on a eu l'aspect positif. L'évangile va transformer le monde. Le Messie, c'est celui qui est venu pour délivrer ce monde des ténèbres les plus profondes, qui sont les ténèbres du péché. Et juste après, Jésus dit « Ne parlez pas trop du fait que je suis le Messie ». Au verset 20, il leur dit « Gardez-le pour vous jusqu'à la résurrection ». Pourquoi ? Parce que si on dit que Jésus est le Messie, tous les gens vont avoir du mal à comprendre. Alors vous pouvez vous dire « Non, c'est exagéré, les gens vont comprendre que le Messie est différent ». Regardons ce que Pierre a compris quand Jésus va commencer à révéler la plénitude du plan de Dieu pour lui. Et qu'est-ce que ça veut dire être le Messie ? Laurence, tu pourrais passer au prochain... Je vous lis le texte des versets 21-23, pendant lesquels Jésus va prédire sa mort et sa résurrection. D'abord, il va prédire au verset 21 cette mort et résurrection. Les deux ensemble. Hein, vous remarquez bien ? Les deux ensemble. Mort et résurrection. Et en même temps, juste après, Pierre va le reprendre. Et Pierre va être corrigé avec dureté. Mais ne vous arrêtez pas là. Attendez de voir jusqu'au verset 28 pour voir que autant Jésus corrige durement, autant il ne s'arrête pas là. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan ! Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dans cette histoire, je vous invite à ne pas oublier le fondement de la foi chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne, c'est que Jésus est vraiment Dieu et qu'il est vraiment homme. S'il est vraiment homme, ça veut dire que Jésus a été tenté dans sa chair. Il a été tenté au désert. Quelles ont été les tentations du diable? C'est chapitre 4 de Matthieu. La première, il lui dit, après qu'il ait jeûné pendant 40 jours, « Fais que ces pierres deviennent des pains. » Pourquoi? Parce que Jésus a faim. Alors, certains d'entre vous ont une vision de Jésus qui est seulement les premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était la parole de Dieu, et le Verbe était Dieu. Oui, il était Dieu. Mais il faut aller, si vous allez dans l'évangile de Jean, jusqu'au verset 19, verset 14, verset 19, qui vous dit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Le Verbe s'est fait chair, la parole de Dieu s'est faite humain. Et avec l'humanité, il y a eu souffrance, il y a eu émotion, il y a eu difficultés qui sont venues. Est-ce que ça veut dire que Jésus a péché?
Non.
Non. Est-ce que ça veut dire que Jésus a été tenté de faire des choses? C'est pour ça que le diable est venu le tenter. Jésus répondra au diable par rapport au pain? Non. Je ne te répondrai pas à cela. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Et Jésus est homme. Et il sait qu'il doit se nourrir de pain. Mais de toute parole de Dieu. Ensuite, deuxième tentation. Le diable va essayer la deuxième stratégie. Tu utilises la parole de Dieu? Très bien, je vais l'utiliser aussi. Il emmène Jésus sur la plus haute le haut du temple et lui dit « Jette-toi d'en haut, comme ça les gens vont voir que tu es le Messie, vont voir que tu es vraiment l'envoyé de Dieu. » Et ensuite, tout le monde va se tourner vers toi et va suivre ton enseignement. Il n'y aura pas de croix, il n'y aura pas de souffrance. Et il cite un psaume, un psaume qui dit « Les anges te porteront sur leurs mains, afin que ton pierre ne heurte pas une pierre. » Et Jésus dira non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Troisième tentation, le diable l'amène sur une montagne. Si vous lisez dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, vous devez inverser la deuxième et troisième tentation. Mais les trois sont les mêmes. Et la troisième tentation dans l'évangile de Matthieu, ça va être, Jésus est amené sur une haute montagne. Et Dieu lui dit, le diable, excusez-moi, ce n'est pas Dieu, c'est le démon qui lui dit, adore-moi, incline-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes. Dieu va lui donner tous ces royaumes, il est venu pour ça. Mais pas en se soumettant au diable. Se soumettre au diable, c'est le chemin court. La tentation, c'est pas compliqué. La tentation, c'est d'avoir quelque chose de bon à un moment qui n'est pas bon. En général, c'est de l'avoir trop tôt. Par exemple, quand on est jeune, on aimerait bien commencer à conduire une voiture avant qu'on ait le permis. Ça vous est déjà arrivé, avant que vous ayez l'âge, de vous dire « j'aimerais bien conduire la voiture » ou « j'aimerais bien faire comme les adultes avant l'heure ». Et c'est un péché. C'est rompre une loi au niveau de la société déjà. Mais devant Dieu aussi, il y a des normes. Il y avait Adam et Ève qui étaient au jardin. Il y avait des bons fruits. Dieu leur avait donné tous les fruits. Mais eux, ils ont voulu posséder le fruit que Dieu avait dit « non, celui-là n'est pas bon ». Il y avait un autre qui était encore meilleur que celui-là. C'est le fruit de l'arbre de vie. Mais eux ont voulu croquer du fruit de l'arbre de la connaissance. Parce que la connaissance donne un sentiment de maîtrise, d'être supérieur aux autres et de pouvoir discerner sa vie tout seul. Si je sais ce qui est bien, ce qui est mal tout seul, j'ai plus besoin de conseils. J'aimerais vous dire une chose. Être chrétien, c'est grandir dans le discernement. Mais ce discernement, vous allez apprendre que c'est devenir des enfants. Et que ce discernement se fait toujours dans la présence de Dieu, pas opposé à Dieu. Vous n'aurez jamais un discernement complet sans Dieu. Le discernement parfait, c'est dans l'union parfaite avec Dieu. C'est ce que Jésus nous a montré. En étant pleinement uni à l'Esprit de Dieu, pleinement uni au Père Céleste, pour nous montrer ce chemin. Et dans ce chapitre, il va y avoir tentation. Ne l'oubliez pas. Vous allez lire ce texte souvent en vous disant Jésus, il sait tout, donc Pierre, quand il lui dit ça ne va pas t'arriver, ça ne pose aucun problème, et il lui répond méchamment sans raison. N'oubliez pas que Jésus est homme. Quand vous lisez ce texte, pensez que Jésus est vraiment homme, vraiment Dieu. Souvent la Christologie, c'est la compréhension de Jésus. Elle est imparfaite. Il y a certaines églises, les gens, ils disent Jésus, il est vraiment homme, et ils oublient qu'il est Dieu. Ils vont dire, ouais, la Bible, vous savez, ça dit des trucs, mais c'est pas vraiment vrai. D'autres églises qui disent, oui, Jésus, il est vraiment le Fils de Dieu. Amen. Mais est-ce qu'il avait des difficultés dans sa vie? Ah, et là, on a du mal à comprendre comment il réagit ici. Rappelez-vous que Jésus va être tenté d'échapper à la croix jusqu'à la veille de la croix. Jusqu'à la veille de la croix, il va être en souffrance par rapport à cette fin violente et humiliante qu'il ne comprendra parfaitement qu'après la résurrection. Lui, le Fils de Dieu, Dieu a permis que sa divinité lui permette d'être resté uni à Dieu, mais que son humanité fasse qu'il a vraiment souffert, qu'il a vraiment été tenté. Et la veille de sa mort, à Gethsémani, quand il va prier, est-ce que Jésus va dire « Je connais tous tes plans, c'est parfait Dieu, il n'y a aucun problème pour moi, je vais demain, je veux juste répéter avec toi le scénario de ce qui va se passer demain. » Est-ce que ça s'est passé comme ça quand il priait? Non. Il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe de souffrance soit éloignée de moi, si c'est possible, éloigne de la souffrance de moi. Lui, en tant que Dieu, voyait toute la souffrance accumulée qui allait se déverser sur lui le lendemain. C'est comme si son corps imaginait déjà complètement la souffrance qu'il allait vivre. Dans l'évangile de Luc, on dit qu'il a eu des gouttes de sang qui sont tombées de son front. Tellement, ça a été un moment de souffrance intense à l'idée de ce qui allait lui arriver. Si vous savez que vous allez vous faire massacrer dehors, vous savez exactement comment, on vous a décrit ce qui va vous arriver. Vous imaginez la peur, la terreur intérieure que cela peut créer dans votre cœur? Vous imaginez ce que Jésus a dû vivre intérieurement? Ne l'oubliez jamais. Quand il dit qu'il va mourir, il ne le dit pas de manière légère. Il le dit avec la profondeur de son humanité. Oui, il est Dieu. Et il est humain aussi. Il est Dieu, il sait ce que son Père veut qu'il fasse, et il va toujours le faire. Il est humain, et ses émotions, ses tensions intérieures vont être réelles en Jésus, jusqu'à la croix. Mais il ne va jamais laisser ses tensions prendre le dessus sur la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ça la victoire de la croix. C'est pour ça que d'abord, il va faire connaître à ses disciples qu'il va aller à Jérusalem. Et Jésus sait comment les gens imaginent ce que va faire le Messie. C'est pour ça que juste après la révélation de qu'est-ce que va faire le Messie, il va devoir leur dire, attention, il va falloir qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Les anciens, c'est ceux, en hébreu, un ancien, ça se dit Zaken. Zaken, en hébreu, ça vient du mot Zakan, qui veut dire la barbe. Ça veut dire quelqu'un qui a une barbe. En gros, c'était les gens qui étaient plus âgés à l'époque, c'était des gens donc qui faisaient partie des personnes plus âgées, plus mûres. Et en grec, ce mot a été traduit presbyteros. Le presbytère, ça donne en français, en fait, ça veut dire quelqu'un qui est vieux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qui ont mal aux yeux et on appelle les presbytes? Alors être presbyte, ça veut dire que vos yeux, ils sont vieux. Ils commencent à avoir du mal à voir de loin. Pas à voir de loin, à voir de près. Je confonds avec mon problème. Moi, je suis myope et je vois pas bien de loin. Les presbytes, eux, quand ils regardent de près, ils n'arrivent pas à lire. Et ça veut dire, en fait, quand les yeux deviennent vieux, c'est ce qui leur arrive. Donc, les anciens, c'est ceux qui sont âgés, d'abord, et qui ont acquis par leur âge et leur sagesse une autorité. L'âge sans sagesse, c'est une honte quelque part. L'ancienneté, quand on vieillit, nous invite à la sagesse. Toutes ces années, nous sommes invités à apprendre. Je ne suis pas en train de vous dire, allez dire aux gens qui sont plus âgés que vous, « Oh, tu devrais être plus sage ». Non, le respect est un devoir. Et une tâche, je dirais, pour les plus âgés d'entre nous. Mais pour vous, chacun d'entre vous, en même temps que vous vieillissez, apprenez à grandir. La croissance spirituelle ne s'arrête pas quand vous avez grandi dans vos membres. vous allez continuer à croître spirituellement toute votre vie si vous suivez le Seigneur, si vous suivez Jésus, pour devenir des anciens, des personnes qui sont mûres intérieurement. C'est ce que ces personnes étaient censées être. Mais face à Jésus, ils n'auront pas cette maturité spirituelle, malheureusement. Les principaux sacrificateurs, dans la Bible, en protestante en général, vous avez le mot sacrificateur. Dans les Bibles catholiques, vous aurez le mot prêtre. Pourquoi cette différence? Parce que le mot prêtre, aujourd'hui, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. On va l'associer avec des prêtres catholiques qui vont faire la messe. Les prêtres de l'époque, ils faisaient une chose. Ils faisaient des sacrifices et ils enseignaient aussi. Mais la tâche la plus importante qu'on les voyait faire, c'était de faire des sacrifices. Donc cette traduction nous rappelle que c'est ceux qui faisaient des sacrifices pour demander le pardon de Dieu, pour aider les personnes à être réconciliées avec Dieu. Ils avaient un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous avez besoin d'un intermédiaire entre vous et Dieu? Est-ce que vous avez besoin d'un intermédiaire autre que Jésus? Non, c'est Jésus, l'intermédiaire, le Dieu homme, celui qui fait le pont, la jonction entre l'humanité et Dieu. C'est lui dont on a besoin. Nous pouvons être des petits médiateurs, que ce soit un pasteur, que ce soit vous, avec vos enfants, avec des amis, des médiateurs de la grâce de Dieu. Nous sommes des médiateurs optionnels, pas nécessaires mais optionnels. À l'époque, les prêtres étaient nécessaires, les sacrificateurs. Et les grands sacrificateurs, c'était ceux qui venaient en général de quatre grandes familles, qui étaient proches des Romains, qui avaient finalement une autorité un peu supérieure aux autres sacrificateurs. C'était un peu les chefs. Les scribes, c'est ceux qui avaient la tâche vraiment d'enseigner. Les scribes, c'est ceux qui savaient écrire et enseigner. Donc, des fois, il y a la traduction « les enseignants de la loi ». Parce que leur tâche principale, c'était pas d'écrire, c'était d'expliquer. Mais leur formation, c'était qu'ils avaient appris à écrire sans faire d'erreur. Donc, à être fidèles à l'enseignement. La tâche d'un enseignant, c'est d'être fidèle. C'est pour ça que je mets toujours le texte biblique, ou bien je vous le donne, ou bien je le mets à l'écran, ou bien je vous inviterai à lire la Bible, parce que je suis soumis à ce texte. Je ne suis pas plus grand que ce texte. Ce texte, c'est, je le crois, la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint. C'est ce texte-là qui va vous transformer. Ma tâche, c'est d'être un haut-parleur, quelqu'un qui vous aide à intégrer ce texte dans vos vies, à le comprendre et à le vivre. Et donc, les scribes, c'est ceux qui essayaient d'aider les gens à l'époque. Pour ça que Jésus était dur avec les scribes, parce qu'il disait, il vous manque une clé importante dans votre enseignement. Vous expliquez qui est le Messie, mais vous l'expliquez de manière pas juste. Et il va dire les points clés. Il va falloir qu'il fût mis à mort, lui, le Messie, et qu'il ressuscite le troisième jour. Le signe de Jonas. Le Jonas va être 3 jours dans la baleine et ressusciter. Il y a un problème ici. Premier problème, les personnes n'ont aucune idée ce que veut dire ressusciter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont jamais vu quelqu'un ressusciter, à part la petite fille, par exemple, du chef de la synagogue, de Jaïr, qui est ressuscitée, mais ils savent qu'elle va mourir un jour. C'est ce qu'on appelle une résurrection temporaire. Il y a aussi Lazare que Jésus va ressusciter, en Jean chapitre 11. Temporaire, Lazare va mourir plus tard. Mais là, cette résurrection, après, est-ce que Jésus va mourir à nouveau? Non. C'est un passage éternel. Ce type de résurrection, c'est il va ressusciter avec un corps qui devient éternel. Ça, ils ne l'ont jamais vu et ils ne peuvent pas comprendre pour l'instant. Jésus sait qu'ils ne peuvent pas comprendre. Un enseignant n'a pas pour but de ne dire que des paroles qu'on peut comprendre. Le but d'un enseignant, c'est de vous montrer la direction en sachant que vous ne comprendrez pas tout. Parfois, vous allez vous dire que je prêche des choses trop compliquées. Je vais vous dire une chose. Mon but, c'est de vous donner suffisamment d'éléments simples pour que chacun d'entre vous ait des éléments pour avancer et suffisamment profond pour que vous ayez à réfléchir et que vous ne croyez pas que la parole de Dieu vous maîtrisez et que naïvement, vous avez tout compris. Il y a des mystères d'une profondeur très grande dans la parole de Dieu auxquels moi, je m'abreuve chaque jour et desquels j'ai encore à apprendre. Si je vous donne l'impression que vous avez tout compris avec 2-3 petites explications, je ne vais pas vous aider. Parce qu'après, vous allez croire que vous avez tout compris. Mon but, c'est de vous donner suffisamment d'aisance dans la parole de Dieu pour comprendre le message clé. Et suffisamment de curiosité pour prier le Seigneur, pour vous faire avancer davantage. Si quelqu'un me dit, ah ça y est, l'évangile, j'ai compris, je vais commencer à vous regarder comme ça. Quoi, tu as compris? Les plus grands exégètes disent, par exemple, il y avait un monsieur Brown qui était le spécialiste mondial de l'évangile de Jean. Quand il allait mourir, il disait, je continue à découvrir des trésors et des richesses dans l'évangile de Jean. Ah, ça c'est des personnes, je suis intéressé de les écouter. Ceux qui ne sont pas devenus des propres maîtres, mais des étudiants de la parole de Dieu. Notre tâche, c'est d'être des élèves de la parole de Dieu, qui la vivent, qui la retransmettent, et qui sommes à l'écoute de Jésus-Christ, à l'écoute de cette parole vivante. Il fut mis à mort, ça c'est le point le plus difficile. La résurrection, c'est difficile le troisième jour, mais mis à mort, c'est encore plus difficile. Le Messie, c'est celui qui va être victorieux. Souffrir, non, c'est pas possible. Ça va pas, ça ne correspond pas du tout. L'image du Messie, c'était la victoire personnifiée. C'était le succès personnifié. C'était tout ce qui n'est pas bon va être écrasé. Qu'est-ce que Jésus dit ? Le Messie va souffrir. Ça, c'est inacceptable. Dans notre monde, nous avons une idée de ce que chaque personne doit faire. Vous venez à l'église, vous êtes à peu près une quinzaine, vous avez 15 idées de ce qu'un pasteur doit être. Certains vont dire, ah, un pasteur doit enseigner, d'autres, il doit visiter les personnes, d'autres... Et vous avez une idée différente. Ma tâche, c'est d'essayer de répondre à Dieu et d'essayer d'être fidèle à l'appel de Dieu sur ma vie. Est-ce que un pasteur peut être un bon pasteur sans enseigner ?
Non.
Non. Si un pasteur n'enseigne pas, il ne peut pas être un bon pasteur. Est-ce qu'un pasteur peut être un bon pasteur s'il ne prêche pas la parole de Dieu ?
Non.
Non. Est-ce qu'un pasteur peut être un bon pasteur s'il ne prie pas ?
Non. La prière, c'est le moteur de l'Église.
La prière est le fondement de notre relation avec Dieu. Donc vous avez tous ces éléments. Mais en même temps, certains d'entre vous diront, le pasteur devrait faire tel type de réunion, ou tel autre, le pasteur devrait aller à tel, faire de telle façon. Alors, vous avez des petites attentes sur un pasteur. Vous imaginez sur le Messie les attentes ? Vous imaginez les attentes sur le Messie ? Et ça, c'est ce qui s'est passé. Jésus savait qu'ils avaient des attentes immenses. Donc, en même temps qu'il leur dit, oui, je suis le Messie, je vais vous le dire, il le dit seulement à un tout petit groupe. Parce qu'il sait que même le petit groupe va avoir des difficultés à accepter ce qu'il a à enseigner. Juste après, il leur dit, le Messie, moi, je vais être mis à mort. Et nous lisons la première réaction. Pierre, celui qui a eu une intuition venant de Dieu sur ce que le Messie devait faire. Pierre va dire, d'abord il va le prendre à part et va le reprendre en lui disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre se définit comme un disciple de Jésus, un disciple d'un rabbi à l'époque. Une chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est reprendre son maître encore plus en public. Pierre va reprendre son maître en public. Premier point. Deuxième point, il va le reprendre sur ce que Jésus sait être le fondement de ce qu'il est en train de leur annoncer. Il leur dit, je vais souffrir. Qu'est-ce que dit Pierre ? Est-ce qu'il lui dit, j'ai du mal à comprendre, Seigneur, explique-nous comment le Messie peut être ? Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est prêt à être enseigné. Là, il dit non, il dit, je sais ce que c'est le Messie. Le problème, quand vous avez une intuition avec Dieu, quand vous avez un haut spirituel, vous savez ce que c'est ? C'est qu'après un sommet, souvent, il y a une descente. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un moment, spirituellement, vous avez l'impression que vous comprenez ce que Dieu veut de votre vie, vous comprenez quelque chose de nouveau, vous dites, c'est génial la foi. Je vous le souhaite de tout cœur et aussi souvent que possible cela. Mais en même temps que vous le vivez, après, il y a la tentation de dire, j'ai tout compris. Je sais ce que c'est d'être chrétien. Je vais vous expliquer à vous tous, c'est comme ça d'être chrétien. Moi j'ai compris, c'est comme ça. Et juste après, bam, vous avez un problème dans votre vie et vous vous dites, ça me casse. Moi qui croyais avoir tout compris, je n'ai rien compris. Et vous passez du tout ou rien. Eh bien ça, c'est encore une étape où vous avez à grandir, ne plus passer du tout ou rien, du dire j'ai tout compris, j'ai rien compris, mais finalement de rester enseignable. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons capables d'être enseignés à tout moment. Que nous soyons capables de nous remettre en question et d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pierre, là, à ce moment-là, est-ce qu'il accepte qu'il y a des choses qu'il ne comprenne pas ?
Non,
il dit « j'ai compris ». à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Est-ce que c'est facile pour Jésus de penser à cette mort sur la croix ?
Non.
Est-ce que le démon, à votre avis, c'était juste des tentations théoriques quand il l'a embêté Jésus ?
Non.
Est-ce que vous pensez que pour Jésus, il y a eu un combat intérieur pour dire non au diable ? Est-ce que vous pensez que quand un de ses disciples plus proches, celui qui est très proche, Pierre, lui dit « ça ne va pas t'arriver », est-ce que vous croyez que Jésus il aimerait bien que ça ne lui arrive pas ?
Oui.
Qu'est-ce que ça lui rappelle Jésus quand on lui dit ça ? Ça ne va pas t'arriver ? D'éviter que le Messie ait besoin de souffrir ? Qui lui a dit ça la dernière fois ?
C'est Satan.
C'est Satan. Qui est en train d'encourager Pierre dans cette direction ? Est-ce que ça veut dire que Pierre est un possédé du diable ?
Non.
Tout à fait pas. Est-ce que ça veut dire que Satan a réussi à encourager un petit peu d'aspects qu'on appelle charnel ? Charnel, quand vous m'entendez dire charnel, c'est pas compliqué. Charnel, c'est ce qui est centré sur l'ego, sur nous et sur notre bien-être. Pierre, est-ce qu'il a envie que son rabbi, son chef, souffre ?
Non.
Si son chef souffre, Jésus, il a dit, un élève n'est pas plus grand que son maître. C'était dans le chapitre 10. Si on va mépriser le maître, qu'est-ce qu'on va faire avec les disciples ? On les méprisera aussi. Est-ce que Pierre, il a envie d'être méprisé ?
Non, évidemment.
Évidemment que non. Et donc, il ne voudra pas que son maître soit méprisé. C'est ce qu'on appelle une attitude charnelle, qui vient de l'homme. Il est centré sur un désir de protection. Dans notre vie, on a toujours ce désir de protection de la souffrance, de la mort. Ce désir est normal. Ce désir a un aspect positif. Ça permet à des petits-enfants de ne pas courir comme des fous pour se blesser et détruire leur corps avant qu'ils soient capables de grandir. Des fois, vous voyez des petits-enfants qui courent et vous savez qu'il va tomber. Soit les parents, ils leur mettent des trucs aux genoux pour qu'ils ne tombent pas, ou bien ils évitent les obstacles parce qu'ils savent que ce instinct de protection de la souffrance, quand on ne l'a pas développé, c'est dangereux. Donc c'est important de le développer. Ça fait partie de la croissance. Mais c'est une étape. Si vous vous arrêtez là, et que la souffrance, l'éviter, est le point le plus important de votre vie, vous ne serez pas pleinement humain. Vous ne serez pas pleinement humain comme Dieu veut, cette humanité renouvelée que Jésus a voulu. La souffrance, l'éviter, est une étape normale de la croissance. L'éviter et en faire votre Dieu, c'est quoi ? C'est de l'idolâtrie. C'est remplacer Dieu par quelque chose qui est tourné vers nous. Et la pierre, malheureusement, a les deux pieds dedans. C'est ce que Jésus va lui dire. Cela ne t'arrivera pas. Jésus lui répond, se retournant, « Arrière de moi, Satan !» C'est dur, cette parole. Vous comprenez pourquoi Jésus lui dit ? Est-ce que ça veut dire que Jésus lui dit, « Tu n'es plus mon disciple ?» Non. Il lui dit, « Arrière de moi !» Parce que Pierre est en train de se mettre où ? Devant lui, il est en train de se mettre devant Jésus. Le disciple qui est censé suivre son maître est en train de se mettre devant le maître et lui dire « Non, non, tu vas voir, on va te préparer un chemin de Messie qui est tranquille, avec l'entrée à Jérusalem sur le petit âne, avec les hosannas de tout le monde. » Ça, ça va bien. L'étape confrontation, l'étape crucifixion, ça, ça va pas. Pierre, il est en train d'essayer de rediriger les plans de Dieu. C'est grave ce qui se passe. Des fois, vous vous dites, « Oh, mais c'est pas grave, mon péché. » Si vous voulez avoir un discernement sur la gravité du péché, découvrez-là ce discernement dans la présence de Dieu. Le péché est grave. Ce que dit Pierre ici est grave. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Et c'est pour ça, ne vous arrêtez pas ici. Vous allez voir au verset 28 que Jésus va rassurer Pierre. Et juste après, il va le rétablir même dans son rôle, mais... Là, il lui dit, là, t'es avec Satan. Arrière de moi. Tu es en train de te mettre devant ton rabbi, devant ton enseignant, derrière. Qu'est-ce que Jésus avait dit au diable après la troisième tentation ? Il lui avait dit, loin de moi, Satan. Donc Jésus ne veut rien avoir à faire avec Satan. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre ? Arrière de moi. Il ne lui dit pas, tu n'es plus mon disciple. Il lui dit, tu es en train de te mettre devant, tu devrais être derrière. Tu es en train de me dire ce que je dois faire, tu devrais apprendre de ce que je t'enseigne et de comprendre un point fondamental de ce que veut dire être le Messie. C'est ça qui est en jeu. Tu mets un scandale. En grec, c'est le mot scandalon qui a donné scandale en français. En français, le mot, en général aujourd'hui, ça veut dire quelque chose qui est honteux au niveau public. Un scandale. La honte, un scandale dans notre famille, c'est quelque chose qui est vraiment une honte devant les voisins, devant... Scandalon, ça va être d'abord une pierre d'achoppement en grec. Ça va être quelque chose qui fait trébucher, qui fait tomber. Ça va être finalement un scandale. C'est que Pierre risque de faire tomber qui finalement ? Les autres et Jésus. Il risque de faire tomber Jésus. Jésus a été tenté jusqu'à la fin de renoncer à la souffrance. Jésus jusqu'à la fin a eu du mal à accepter ce chemin de la croix. Mais il n'a jamais dit non, il a toujours dit oui. Il a dit « Dieu, c'est difficile, mais avec toi, je veux le faire. » Jusqu'à la fin. Si vous dites qu'à un moment donné, votre vie de foi sera tellement forte que vous n'aurez plus de tentation, est-ce que vous croyez que c'est possible ? Faites attention. Faites attention. La tentation, Jésus en a eu jusqu'au dernier jour. Jusqu'à la croix. Quand il était sur la croix, qu'est-ce qu'on lui disait ? Sauve-toi toi-même, descends de la croix, pour éviter la souffrance. Pierre est une tentation pour Jésus, est un risque de chute. Et Jésus lui dit, t'es en train de te mettre devant, non, mets-toi derrière. Il ne peut pas lui dire gentiment, dans le style, oh Pierre, alors je vais t'expliquer, c'est pas vraiment ta position là. Il lui dit, arrière de moi, d'abord parce que c'est une vraie difficulté pour Jésus, et qu'ensuite, c'est quelque chose de très important pour Pierre. Il faut vraiment qu'il coupe avec ça. Il faut vraiment qu'il se sorte de ça. Parce que les autres disciples aussi, ils entendent. Et si Pierre, le plus proche des disciples, pense ça, qu'est-ce que les autres disciples pensent ? Pareil. Vous imaginez si Jésus avait dit qu'il est le Messie à la foule ? Si Pierre, le plus proche disciple, qui a été formé, qui sait qu'ils vont devoir souffrir, Jésus a déjà parlé de la souffrance, du fait que le maître souffrirait et que les disciples souffriraient. Qu'est-ce que penseraient les gens ? Jésus va déjà avoir du mal avec ce petit groupe qui va l'accompagner dans les derniers chapitres de l'évangile de Matthieu pour leur expliquer ce que c'est. Il va devoir le répéter plus de 3 fois, ce fait qu'il va devoir mourir et être ressuscité. Qu'est-ce que ça aurait été si Jésus affirmait ouvertement le Messie ? Il va l'affirmer ouvertement une seule fois. C'est quand le grand prêtre lui demandera « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant ? Je t'en conjure, dis-le-nous aujourd'hui. » Et Jésus va leur dire, « Oui, en vérité, je le suis. » Quelle est la phrase juste après ça ? Le grand prêtre va déchirer ses vêtements et va dire, « Nous n'avons plus besoin d'autres témoignages, il a blasphémé, il mérite la mort. » Messie ? Mort. Vous vous rendez compte les deux ? Donc Jésus, il savait qu'il ne fallait pas aller trop vite. Et là, il a dit à Pierre, arrière de moi, tu mets en scandale, tu risques de me faire vraiment tomber. N'oubliez jamais l'humanité de Jésus. Si vous voulez une foi équilibrée, Jésus était vraiment Dieu et vraiment homme. Dès que vous séparez Jésus d'un côté ou de l'autre, votre foi est déséquilibrée. C'est les pensées d'homme, ça. Ce n'est pas les pensées de Dieu. C'est la tentation de la chair. La chair, quand je vous dis la tentation chair, charnelle, vous avez compris, ce n'est pas... coucher avec quelqu'un, ça peut l'être, parce que c'est aussi égocentrique. Mais, il y a un aspect égocentrique, ça peut être un don aussi. Mais c'est d'abord éviter ce qui est mauvais et avoir ce qui est bon pour nous. Laurence, est-ce que tu pourrais passer à l'étape suivante ? Jésus, il sait que ce problème de Pierre, c'est pas que le problème de Pierre, mais c'est le problème de tous les disciples. Donc, il va mettre les points sur les i. Il va passer au verset 24 à 28. Je vous les lis. Alors, Jésus dit à ses disciples... Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme ? Ou que donnerait à un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec les anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus Il sait que le problème de Pierre n'est pas que le problème de Pierre. Il sait que tous ses disciples sont tentés de l'empêcher de souffrir. Il y a même un disciple qui va être tellement offusqué de cela qu'il va le quitter et qui va se mettre du côté des grands prêtres et demander de l'argent. Judas. De Pierre à Judas, vous avez toute la gamme des disciples. Et les deux extrêmes sont tentés. Et les deux extrêmes vont être tentés de renier Jésus. Pierre va renier Jésus. Judas va faire pire. Il va le dénoncer et va y amener les... Le péché est beaucoup plus grand. Mais tous vont être tentés de dire non, nous ne voulons pas de cette souffrance. Nous ne voulons pas de cette souffrance. On veut juste vraiment un rabbi qui nous donne une autorité et qu'on transforme ce monde. Mais une transformation dans laquelle il y a de la souffrance, nous n'en voulons pas. Est-ce que vous aimeriez bien, vous, que la foi chrétienne puisse transformer ce monde sans souffrance ?
Oui, bien sûr.
Oui. Ça serait bien. Est-ce que vous aimeriez bien que je prêche que vous allez, si vous êtes fidèle à Dieu, être riche ?
Non.
Est-ce que vous aimeriez bien ?
Non.
Parce que la richesse, vous savez, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez avec après. Hein. Vous pouvez acheter des maisons, des voitures, vous pouvez... Je pourrais vous dire, donnez-moi 40% de votre salaire et Dieu va vous bénir encore plus. Ça marcherait, ça ?
Non.
Non. Ça marche. Il y a des églises, on appelle ça les églises de la prospérité, qui vont vous dire, plus vous donnez à Dieu, plus vous recevez. J'aimerais vous dire qu'il y a une part qui est vraie là-dedans. Plus vous allez honorer Dieu avec vos dons, plus Dieu va vous bénir. Et dans la foi chrétienne, dans la foi juive, il y avait une référence qui était la dîme, qui était un dixième du salaire. Et ça, c'est une façon que les chrétiens, depuis les premiers siècles, ont encouragé. Mais faites attention, d'abord, est-ce que c'est pour qu'un prédicateur ait une grosse voiture ? Si vous voyez en train de revenir un jour avec une Porsche, d'abord, une chose que vous devez savoir, je ne suis pas vraiment pasteur. Je suis ce qu'on appelle un missionnaire. C'est quoi un missionnaire ? C'est quelqu'un qui est envoyé pour aider une église à démarrer. Les églises doivent bien démarrer. Et celui qui démarre, il a deux options. Soit il a un travail, par exemple, d'ingénieur, et en parallèle de ça, il va faire, il va prêcher le dimanche et il va aider. Soit il a vraiment comme tâche, pour une grande partie de son temps, de prêcher, d'enseigner, de former une église. Mais dans ce cas-là, il faut bien qu'il soit soutenu. Et je suis soutenu par l'église du Nazaret, de manière plus large, pour aider une petite communauté à démarrer. Une communauté qui grandisse. Et après moi, il y aura un vrai pasteur, dans le sens, un pasteur qui sera soutenu par la communauté. C'est comme ça que les pasteurs vont pouvoir survivre sur le long terme. Ce qui veut dire que moi, de mon côté, une règle, je ne vais jamais recevoir d'argent de vous directement, sauf pour acheter, par exemple, des chaises. Là, on voit qu'il va falloir qu'on prenne quelques chaises, ou bien le matériel pour l'école du dimanche. C'est ce qu'on utilisera pour nous. Ou bien il y aura besoin de location de salle. Mais progressivement, vous aurez à être fidèle à Dieu aussi au niveau de vos dons. Ça sera votre façon d'être fidèle. Et cet argent sera pour la communauté. Pour être utilisé, non pas pour que j'aille manger dans les grands restaurants de l'île de la Réunion. Ça, c'est un point important. Fidélité. Pourquoi je parle de ça ? Parce que il y a cette tentation de certains de dire « vous ne souffrirez pas ». Et vous la retrouvez dans ce qu'on appelle les églises de la prospérité. Vous allez prospérer avec Jésus. Vous allez vraiment avoir cette aisance si vous êtes fidèle à Dieu. On le retrouve malheureusement dans les pays pauvres. Au Congo, il y a des églises où il y a des pauvres dames qui vont faire un emprunt, ce qu'on appelle de la microéconomie. En théorie, c'est pour acheter une chèvre et pouvoir avoir un petit revenu. Et cette personne, elle va faire quoi avec ? Elle a un prédicateur qui lui dit, si tu me donnes, il fait de la mathématique spirituelle, il lui dit, si tu me donnes 10 dollars, Dieu va t'en rendre 20. Si tu me donnes toute cette somme, cette pauvre dame, qu'est-ce qu'elle pense ? Ok, je vais emprunter 100 dollars pour une chèvre, je vais leur dire, et qu'est-ce que je vais faire avec ? Donner à l'église, et qu'est-ce qui va m'arriver ? On reçoit 200. Et vous avez des femmes qui se retrouvent non seulement pauvres, mais en plus avec des dettes qui les amènent à des situations de détresse où certaines vont se suicider. Ça, pourquoi ? parce qu'on est tenté par cet évangile sans souffrance. À chaque fois que vous vous faites attraper par un évangile comme ça, vous êtes prisonnier d'un évangile qui ne vient pas de Dieu. Si vous voulez un évangile équilibré, c'est l'évangile de la croix de Jésus, de la croix de ses disciples et de la résurrection. Les deux à la fois. Si vous voulez seulement la victoire, sans la souffrance, ce n'est pas le message de Jésus. C'est le message d'un autre. Si il y a des gens qui vous disent « être chrétien, c'est seulement souffrir » et qu'ils ne vous parlent pas de la vie des enfants de Dieu et du fait que Dieu bénit ses enfants, ce n'est pas le message de Jésus. Si on parle que de la souffrance, comme dans le film de la Passion, malheureusement, je suis désolé, il peut être utilisé par Dieu, mais il y a un manque flagrant au niveau théologique. Il manque la résurrection de Jésus. Si vous pensez que Jésus, c'est celui qui a le plus souffert au monde, la souffrance ne se mesure pas. La souffrance ne se compare pas. Vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira « Moi, j'ai souffert plus que Jésus. » Et vous ne pourrez rien répondre. Parce que la souffrance est individuelle et on ne la mesure pas. N'essayez pas de dire... Des fois, vous avez des gens qui vous disent « J'ai beaucoup souffert. » Et vous avez envie de leur dire « Moi, j'ai plus souffert que toi. » Vous avez déjà entendu des gens qui vous disent ça? Est-ce que ça marche? Comment on se sent quand déjà ils nous disent ça? On ne se sent pas écouté. On a l'impression que, finalement... Nous, on voudrait être écoutés, on voudrait dire, on souffre, et quand on souffre, on aimerait bien qu'il y ait des gens qui nous disent, ok, j'entends. Mais en même temps, si vous dites, ma souffrance, elle est plus grande que celle de tous les autres, pareil, je vous dirais, la souffrance ne se mesure pas. Donc ne mesurez pas votre souffrance aux autres, essayez juste de la gérer, au mieux, avec l'aide de Dieu et de la communauté. Parfois, ça peut être très important. Cette souffrance va être un sujet important. D'abord, Jésus va leur dire... Si quelqu'un veut venir après moi, est-ce qu'il dit quelqu'un qui, est-ce que quelqu'un veut venir devant moi?
Non.
Non. C'est ce qu'il a essayé de rappeler à Pierre. Derrière moi, pas devant. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement. Si quelqu'un veut venir après moi, me suivre, petit 1, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même, ça veut dire renoncer à être le numéro 1 dans ses priorités. Renoncer à être le numéro un au niveau du bien-être, d'accepter que notre bien-être n'est pas le centre de notre vie. Accepter ensuite de prendre sa croix, se charger de sa croix. La croix, c'est un outil de supplice. La croix, c'était pas ça l'outil avec lequel on tuait les gens qui étaient romains. Les romains, vous savez comment on les tuait en général? On les décapitait. C'était la souffrance considérée comme respectable. Parce que décapiter, ça ne dure pas longtemps. Bien sûr qu'on a peur, bien sûr qu'il y a le coup d'épée, mais après c'est fini. Et à travers tout le Moyen-Âge, les nobles ne seront jamais tués d'une mort lente. Ça sera toujours d'une mort rapide, et en général, ça sera décapité. Alors ils feront ça à la hache dans le Moyen-Âge, mais ça a évité une souffrance longue. La croix, c'est la souffrance qui prend du temps. La croix, c'est la souffrance... Il va falloir tenir dans la souffrance. La croix, c'est cette souffrance qui traîne, qu'on aimerait bien qu'il parte. Est-ce que vous croyez que c'est agréable, ça?
Non.
Non. Les crucifiés, normalement, allaient mourir plusieurs jours sur la croix. Ils allaient passer plusieurs jours. Le but des Romains était double. Premièrement, de faire souffrir. Deuxièmement, de servir d'exemple pour les autres. Et donc, on humiliait au maximum les personnes qui étaient crucifiées. Et on les tuait à petit feu. C'était très pervers, parce que par exemple, au moment où Jésus va être crucifié, on va lui donner à boire du vinaigre mêlé de myrrhe pour qu'il ne souffre pas trop la souffrance. Il ne sente pas trop la souffrance. Quand Jésus va dire « j'ai soif », qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner à boire du mauvais vin. Quel est le but de ça? De... Pardon, de
Souler la personne.
Ou bien de le laisser encore traîner plus longtemps. Que la souffrance dure encore plus longtemps. Le but de la croix, c'est comment tuer de manière ignoble, en même temps que ça prenne du temps. La souffrance de la croix prend du temps. Ce qu'on aime bien, nous, c'est les souffrances un moment. Et après, c'est fini. Mais avoir des choses difficiles dans nos vies qui durent, ça, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est beaucoup plus désagréable. Jésus est en train de parler de ça. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, c'est accepter la souffrance. Accepter les souffrances. il y a certaines souffrances dans vos vies qui sont une conséquence de votre bêtise. Il y a certaines souffrances dans vos vies qui sont une conséquence du péché. Et ces souffrances, vous avez à les accepter. Mais il y a d'autres souffrances qui sont des conséquences de votre amour. Il y a des souffrances qui sont des conséquences de votre choix d'aimer votre prochain. C'est surtout de cela qu'il parle. S'il y a des souffrances que vous pouvez éviter en évitant des bêtises, s'il vous plaît, évitez-les. S'il y a des souffrances que vous pouvez éviter par du bon sens, évitez-les. Si vous voulez rouler à 150 sur la route de une route en corniche, évitez ça, vous risquez de mourir très vite. Mais il y a des souffrances qui vont quand même être là, que vous le vouliez ou non. Ces souffrances qui durent. Ça, c'est les souffrances que vous serez tenté de dire « je n'en veux plus ». Des fois, il y a des difficultés. On se dit « j'aimerais bien que ça arrête ça ». J'aimerais bien. Et des fois, on se dit « ça y est, avec ma volonté, je décide que ça s'arrête ». Si c'est des souffrances liées au péché, demandez à Dieu son discernement. Et dans ce cas-là, Dieu va vous guider. Mais toujours faites-le avec Dieu. Demandez « Seigneur, voilà ». Si vous êtes convaincu qu'il y a une direction, c'est Dieu qui vous guide, allez-y. Mais si c'est votre désir de ne pas souffrir, faites attention. Faites attention parce que le chemin chrétien n'effacera pas la souffrance. Cette souffrance ne sera qu'un passage. Parce qu'il y a un passage plus important. Cette vie, elle ne se limite pas à ici. C'est pour ça que Jésus va pouvoir prêcher parce que la croix n'est pas la fin. La croix, est-ce que c'est la fin de Jésus? Il meurt et puis après il reste mort?
Non.
Il y aura la résurrection. De même pour vous, il y a résurrection en jeu. Qu'ils me suivent donc. D'abord, venir après Jésus. Pas se mettre devant Jésus en disant « je sais ce qui est bon », etc. Deuxièmement, renoncer à soi-même. Troisièmement, se charger de la croix. Quatrièmement, suivre Jésus. Vous pourriez répéter avec moi, première étape, si vous voulez être après Jésus, c'est quoi? Renoncer à soi-même. Ça veut dire renoncer à mettre vos objectifs en numéro un dans votre vie. Deuxième point, se charger de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepter la souffrance, surtout la souffrance liée à des choix d'amour, d'amour du prochain. Il y a certains choix d'amour qui vont entraîner souffrance. Ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est fréquent. Plus vous aimez, plus vous souffrez. Je dirais, les parents en ont l'expérience. Quand vous avez des enfants, vous voyez qu'il y a souffrance, qu'il y a difficulté. Souffrance, douleur déjà de ne pas avoir à dormir suffisamment les premiers mois après que le bébé soit né. Mais ça continue parce que quand vous aimez, plus vous souffrez. Si vous voulez arrêter complètement de souffrir, je vais vous dire, il y a une technique qui est très efficace. Arrêtez d'aimer. Et ce chemin, c'est le chemin du Bouddha. Si c'est vraiment votre but, allez-y. Mais ce n'est pas le chemin de Jésus. C'est un chemin tourné vers la souffrance et le désir de l'arrêter. Nous, on n'est pas tourné vers la souffrance. On est tourné vers l'amour de Dieu et du prochain. Et là, je ne suis pas en train de dire du mal du bouddhisme. C'est le fondement du bouddhisme. Et tout bon bouddhisme dirait tout à fait, vous avez bien compris, le but pour nous, c'est d'arrêter de souffrir. Et pour cela, il ne faut plus de désir. Et l'amour étant un désir, il ne faut plus de cet amour. Donc, deuxième point, c'est charger de sa croix, accepter la souffrance. La souffrance qui est liée à l'amour que Dieu veut que nous manifestions dans ce monde. Et troisième point, le suivre. C'est pas tout de dire « je vais souffrir ». Il faut suivre Jésus. Si vous suivez Jésus, où est-ce qu'il va vous mener? Il va vous mener à la croix et à la vie éternelle. Les deux sont là. Les disciples auraient bien aimé que la croix, c'est que pour Jésus et pas pour eux. Mais ils ont bien compris que ça allait être aussi, quelque part, une étape. Plus votre vie va être imprégnée de Dieu, plus vous suivrez Dieu, plus le diable va ne pas aimer, plus il y aura des tensions. Dans le monde, les gens n'aimeront pas les personnes qui suivent pleinement Dieu, qui sont un témoignage de l'amour de Dieu. Il y aura des tensions. Alors, je dirais que ce soit issu de votre sagesse et d'amour de Dieu et non pas de votre bêtise. Hein? Mais il y aura ces tensions, il y aura des oppositions. Venir après Jésus, ça veut dire renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Si vous pensez qu'à la souffrance et que vous ne suivez pas Jésus, ça ne sert à rien. La souffrance ne délivre pas de la mort. La souffrance n'a aucune capacité à vous rendre saint. La souffrance n'a aucune vertu en soi. N'aimez pas la souffrance. Mais acceptez la souffrance quand vous êtes dans une démarche d'amour de Dieu et du prochain. Vous voyez la différence ? La fuite de la souffrance est un mauvais maître. Est-ce que la recherche de la souffrance est un bon maître ? C'est quoi ? Chercher la souffrance ? C'est de l'idolâtrie. Autant chercher à l'éviter l'idolâtrie, autant la rechercher en se disant c'est ça qui est le plus important dans la vie, c'est absurde. C'est tout simplement absurde. Mais ça fait partie de votre chemin. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et là, Jésus parle spécifiquement par rapport à la croix. Si vous voulez vraiment réussir dans la vie, et j'aimerais vous demander, quel est le but de votre vie ? Pas de réponse, hein, mais de vous réfléchir. Qu'est-ce que c'est le but de votre vie ? Quel est le but le plus profond de votre vie ? J'avais un prof qui était à la faculté de Fribourg, l'abbé Genoux, qui était un curé très sympa. Et il disait, quand il avait un jeune, il discutait toujours pour l'amener à des questionnements profonds. Une fois, il avait un jeune qui lui dit « Ouais, moi j'aimerais avoir une mobylette. » Alors il lui dit « Ah, tu voudrais une mobylette ? C'est le but de ta vie ? Ouais, le plus important dans ma vie, c'est vraiment d'avoir une mobylette. » Alors il lui dit « Attends, une mobylette, mais pourquoi c'est important pour toi ?»« Ah ben oui, parce que si j'ai une mobylette, je vais pouvoir avoir une copine qui sera intéressée par moi. » Ah ! Là, il commence à dire « Donc ton but, c'est pas la mobylette ?» C'est la copine, en fait. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la copine ? Vous allez jouer aux cartes ? Ben non, on va... Parce que on va avoir une relation sympa, et puis tout, et puis... Ah, est-ce que par hasard, ce serait d'aimer ou d'être aimé qui serait intéressant pour toi ? Oui, j'aimerais bien. Donc ton but, c'est peut-être pas forcément la copine, c'est d'aimer ou d'être aimé. Et progressivement, il nous montrait comment on peut amener les gens à prendre conscience que derrière tous nos désirs, souvent, il va y avoir un désir plus profond. Et je vous encourage à vous poser la question, quel est le but de votre vie ? Peut-être certains me diront, moi, le but de ma vie, c'est d'avoir telle maison. Dans ce cas-là, je vous dirais, ok, mais pour quel but ? Ah ben oui, comme ça, j'aurai plus d'espace. Pourquoi faire l'espace ? Ah oui, parce que je pourrais inviter plus d'amis. Ah, tu veux être avec une communauté. Et vous allez vous apercevoir que vos désirs, il faut les suivre jusqu'au bout. Quel est le but profond ? Quel est le but de votre vie ? Peut-être certains me diront, mon but c'est de me marier pour l'instant. Hein ? Mais derrière ça, quel est le but ? Où est-ce que vous allez ? Je vous encourage pendant cette semaine à vous poser cette question. Quel est le but profond de ma vie ? Quand on est petit, on demande qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? En général, cette question est encadrée. C'est juste, en gros, on aimerait bien savoir, est-ce que tu veux être infirmière ou bien pompier ? Quel est le but de travail ? Comme si le travail allait être le but de votre vie. J'aimerais vous dire, le travail c'est bien, c'est important, c'est une étape importante, mais ça ne vous amènera pas au ciel. Il y a certains qui n'ont jamais eu de travail, qui ont été au ciel. Il y avait un chrétien, au fin du Moyen-Âge, il était un clochard toute sa vie. Et il aimait Dieu, mais en étant clochard, il transformait des vies. Et jusqu'à sa fin, il était un peu désespéré de se dire « Mais quand est-ce que ma vie va être plus en ordre ?» Mais en même temps, il voyait qu'il pouvait manifester l'amour de Dieu. Et il avait une vie, pas le genre de clochard alcoolique qui insulte, qui frappe. Hein. Mais dans la pauvreté, cet homme a vécu une vie exemplaire devant Dieu. Je ne suis pas en train de vous encourager à être des clochards. Si vous avez un métier qui est une bénédiction pour vous et votre famille, c'est une très bonne chose. Ce que je suis en train de vous encourager, c'est chercher quel est le but de votre vie. Quel est le but profond de votre vie. Ce qui donne sens à votre vie. Et je vous encourage à vous poser des questions. À aller au plus profond. Pour que vous puissiez trouver une perle et l'amener à Dieu, cette perle. Et essayer de garder ce but profond devant vos yeux. Parce que si vous ne le gardez pas, vous risquez d'être détourné. Ce monde, il a un but. De vous donner des objectifs à court terme qui vous détournent des objectifs à long terme. Par exemple, quelqu'un va vouloir acheter une voiture. Mais il va être détourné par l'achat d'un nouveau téléphone, l'achat de tel truc, tel autre. Et il n'aura pas de quoi acheter une voiture qui lui permettrait de fonctionner. Ou l'achat d'une maison. Mais une maison, c'est bien limité. Cette maison, vous savez bien, même les meilleures maisons, elles vont être détruites un jour, peut-être dans 10, 20, 30 ans. Dieu veut que vous puissiez acheter votre maison éternelle, votre communauté éternelle. Ce n'est pas un achat dans le style avec un nombre d'euros donné. C'est avec de l'amour qu'on l'achète. C'est avec de l'amour qu'on la construit, cette maison, avec Dieu et avec notre prochain. Et Jésus parle clairement de ce but de la vie dans les versets 25 et 26. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui aura un but dans ce monde. Sauver sa vie, de faire quelque chose pour lui. D'éviter la souffrance, d'avoir une vie respectée des hommes, d'avoir... Et on peut des fois avoir un but de dire, moi mon but, c'est le bien de telle personne. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous alliez plus loin, que vous creusiez plus loin. Quel est le but de votre vie? Si vous ne vous posez pas cette question quand vous êtes jeune, quand vous êtes vieux, vous direz « j'ai été un imbécile » ou « j'ai été une imbécile » et je ne le souhaite pas. Je souhaite que vous puissiez dire, quand vous seriez dans vos derniers jours, « j'ai couru la bonne course, ce que j'ai fait avait du sens et j'ai vraiment marché là où ça avait un but. » Et si vous venez au Seigneur plus tard dans votre vie, eh bien avancez, parce que le chemin avec Dieu, ce n'est pas une question de dire « j'aurais dû plus tôt ». Quand je suis devenu chrétien, je me suis mis en colère contre mes parents pendant 3 ans et contre moi-même en disant « j'ai fait des études finalement qui ne me servent à rien. La science, je n'en veux plus. J'ai voulu tout rejeter parce que je rendais compte qu'il y avait des limites à la science et que c'était la relation avec Dieu qui était le plus important. » Dieu m'a aidé à comprendre à travers les années avec d'autres chrétiens que finalement la science est une très bonne chose et un très bon outil, mais pas un bon but. Et je me suis rendu compte que finalement le but, ce n'est pas de rejeter votre passé ou notre passé. C'est de dire, ok, je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec ce qui a été mon passé et comment est-ce que je vais semer dans la bonne direction? C'est l'intérêt de se poser cette question, quel est votre but? Quel est le but de votre vie? Et si votre but est dans ce monde, alors Jésus vous dit, si vous voulez sauver votre vie, vous la perdrez, mais celui qui sauvera, qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Celui qui acceptera, donc, difficulté, souffrance, mais pour un but plus élevé, alors cette chute dans ce monde sera la vraie victoire éternelle. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça sert à quoi qu'un homme gagne tout dans le monde, gagner tout le monde, s'il perd son âme? Son âme, c'est sa vie finalement, le cœur de son être. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Si vous perdez l'essence de qui vous êtes, si vous allez dans la mort éternelle, à quoi va vous servir les choses de ce monde? À quoi ça servira? C'est futile, ça ne sert à rien. D'avoir la plus belle mobilette au monde, et après, d'avoir la plus belle maison, d'avoir le plus beau métier, le travail. Et il parle de cela, Jésus, en verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun de nous selon nos œuvres. Est-ce que nous sommes sauvés par ce que nous faisons?
Non.
Non, paradoxalement non. Est-ce que si nous sommes sauvés, si nous nous tournons par la foi vers Jésus, nous pouvons dire que je suis chrétien sans faire des œuvres d'amour?
Non.
Impossible. Si quelqu'un a la foi, ses œuvres vont se traduire dans ce monde. Et c'est ce que Dieu va nous enseigner à travers Jésus et à travers l'apôtre Paul en particulier. De suivre Jésus. La foi, c'est vraiment se mettre en tant que disciple de Jésus. De se dire, c'est plus moi premier qui dis j'ai tout fait, tout ça de bien, mais de dire je suis Jésus et quand là où il m'appelle, je le fais. Et je n'ai aucune gloire personnelle, je suis juste un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui fait ce que Dieu m'appelle à faire. Et au verset 28, juste après que Jésus ait dit donc vos œuvres, vos actions d'amour. Et rappelez-vous, c'est des actions d'amour. Le cœur du christianisme, ce n'est pas la souffrance ou la fuite de la souffrance, c'est l'amour pour Dieu et pour le prochain. Quand Jésus, on lui a demandé, c'est quoi le cœur de la loi? Est-ce qu'il a dit, c'est tu garderas le sabbat, tu feras attention que le septième jour tu vas à l'église, tu feras attention à ce que ta viande soit bien cuite, tu feras attention à ce que tu portes telle chose. Est-ce qu'il a dit ça, Jésus?
Non.
Il a dit le cœur de la loi, le cœur de l'enseignement de Dieu, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les œuvres qui plaisent à Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne viendra pas à l'église?
Non,
bien sûr que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. C'est cet amour de Dieu qui va se traduire dans vos vies, qui va vous transformer et transformer les autres. Jésus, il a eu des paroles difficiles. Et il sait bien que pour Pierre, ça doit être un choc de se faire appeler Satan. Vous imaginez, vous êtes avec Pierre, vous avez bien compris que Jésus, c'est vraiment le Messie, et vous faites cette confession de manière candide, de tout votre cœur. Vous dites, Jésus, tu es le Messie, tu es le Seigneur du monde, tu es vraiment le chef dans ce monde. Et Dieu, à travers Jésus, vous dit, c'est bien Betty, c'est bien Judith Eva, c'est bien France, c'est bien Dominique, c'est bien Colline, tu as bien compris qui je suis. Puis juste après, il y a une souffrance dans votre vie, vous dites, non, non, ça c'est pas, ça Dieu ne peut pas vouloir ça. Dieu, s'il est le Messie, il va me délivrer de toute souffrance. Qu'est-ce qu'il va vous répondre, Jésus ? Mets-toi derrière moi. Ne te mets pas devant moi. Ce n'est pas toi qui définis ce qu'est être disciple, c'est moi qui le définis. Est-ce que tu es prêt à être à ma suite et pas à te mettre devant ? Et juste après, il sait que Pierre a eu un moment difficile. Jésus combine toujours souffrance et gloire. Parce qu'il veut faire comprendre que c'est du long terme ce qu'il veut faire. Qu'il y a des souffrances temporaires pour une gloire et une vraie vie profonde, une vraie transformation. Déjà des joies dans ce monde, mais une joie vraiment avec lui. Après avoir semé pour l'amour dans ce monde. Et c'est ce qu'il va faire au verset 28. Il va le dire, et ça fait partie des mots pour Pierre. Donc si vous avez l'impression des fois que vous êtes repris par Jésus, pensez à cette dernière parole. Jésus dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne, dans sa gloire. C'est ce que Pierre va voir 6 jours plus tard, quand il va être sur la montagne au moment de la transfiguration. Et Jésus va montrer qu'il est vraiment le Messie, qu'il est vraiment uni avec les disciples, les prophètes comme Moïse, comme Élie, et qu'il amène à un chemin de vie. Et cette vision céleste est nécessaire pour nous aussi. Que nous méditions sur ce que veut dire le paradis, le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va nous aider sur le court terme à faire face aux difficultés du court terme pour vraiment viser le but de long terme qui est la relation avec Dieu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Ce sermon est à la fin et j'ai une question que je vous ai déjà posée, que je vous invite à méditer pendant cette semaine. Quel est le but de ma vie ? Et comment ce but se combine avec ces versets de Matthieu chapitre 16, versets 21 à 28. Est-ce que vous êtes avec Pierre qui se fait corriger ? Ou avec Pierre qui confesse que Jésus est le Messie ? Est-ce que vous êtes avec les disciples qui acceptaient cette parole difficile de Jésus ? Où est-ce que vous serez ? Mais d'abord, vous devez laisser la profondeur de votre vie, la profondeur des désirs dans votre vie faire surface. Quel est votre but ? Quel est votre but dans la vie ? C'est quoi le plus important dans votre vie ? Et comment vous reliez ce but à votre foi ? Pour que votre vie ne soit pas un patchwork incohérent de couleurs qui ne vont pas ensemble, mais quelque chose d'unifié qui va dans la même direction. Parce que si ça va dans la même direction, toutes vos énergies vont porter du fruit. Petit à petit. Petit à petit. C'est comme l'histoire d'une vieille dame qui avait économisé. Elle était une vieille dame à New York, avait fait les grands titres des journaux parce qu'elle était morte. Elle était très, très modeste. Petit appartement, vraiment rikiki toute sa vie. Et quand elle meurt, on s'aperçoit que cette dame a plusieurs millions sur son compte en banque. Plusieurs millions de dollars sur son compte en banque. Les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Comment ça s'est passé ? Et on s'est aperçu qu'elle a économisé petit à petit une petite somme régulièrement, qu'elle l'a investie à des endroits, et que finalement, elle l'a investie. Mais je vais être honnête avec vous, cette dame, elle est morte, elle n'a jamais bénéficié de ça. Cet investissement, il n'était que pour ce monde. Et Jésus dit, si vous construisez des grands greniers dans ce monde, pour amasser du blé, ça ne servira à rien. Mais si vous amassez des actes d'amour tous les jours, pour une maman, pour des enfants, pour un mari, pour une femme, pour quelqu'un dans la rue, que vous bénissez au lieu de maudire, vous allez amasser petit à petit. Et ça va être comme des étapes, des pierres, si vous le faites avec l'amour de Dieu, dirigé par Jésus, ça va être comme l'escalier qui va vous mener à la vie éternelle avec Dieu. Et je vous invite par conséquent à préparer votre éternité en vous demandant d'abord, quel est mon but dans cette vie ? Quel est mon but ? qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Personne ne va vous critiquer, personne ne va regarder, le pasteur ne va pas venir vous dire « Oh, c'est pas assez pieux ». Vous avez à cheminer. Quel est votre but? On va prier ensemble pour que, dans la présence de l'Esprit-Saint, vous puissiez commencer à réfléchir. Et je vous invite à continuer pendant cette semaine, à vous dire « Mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Est-ce que j'ai un but que je peux atteindre? Est-ce que j'ai un but que je peux définir qui me semble vraiment un but très profond, qui peut être réalisable et qui va vraiment donner de la lumière dans ma vie, donner du sens à ma vie? » Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons pendant ces quelques moments réfléchir quel est notre but dans notre vie. Est-ce que nous sommes une flèche tirée vers le soleil de ta lumière? Même si elle est fragile, cette flèche, tu vas la saisir de ton amour et tu l'amèneras au soleil de nos vies, Jésus-Christ, pour qu'unis à lui, nous vivions pour l'éternité, si nous avons tiré cette flèche dans la bonne direction. Mais avant tout, vers où est-ce que nous pointons? Seigneur Dieu, aide-nous à voir où est-ce que nos vies pointent, où est-ce que nous investissons notre énergie, où est-ce que nous aimerions l'investir. Aide-nous à discerner. Qu'est-ce que nous mettons en premier dans cette vie? Qu'est-ce que, au profond de notre être, quel est le but auquel nous aspirons? Est-ce qu'il est réconciliable avec toi? Est-ce qu'il est en harmonie avec toi? Est-ce qu'il est en opposition? Aide-nous à discerner. Parce que tu veux notre succès, Seigneur. Tu veux un succès dans ce monde, dans une certaine mesure, tout comme Jésus a un succès dans ce monde, jusqu'à une certaine mesure. Mais tu veux surtout un succès éternel. Guide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de pouvoir te parler pendant cette minute et de méditer sur ce sujet pendant cette semaine. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Donne-nous de méditer pendant cette semaine sur le sens de notre vie, afin que nous ne perdions pas de temps, afin que nous puissions avec toi avancer dans un chemin de lumière, afin que nous puissions être honnêtes aussi. D'abord reconnaître où est-ce que notre vie mène et voir s'il y a des choses des désirs finalement qui nous amènent vers un cul-de-sac, ou si c'est vraiment l'autoroute de ton amour, de ta gloire, de ta sainteté, de la paix éternelle, Seigneur, de cette paix déjà dans ce monde, mais cette paix avec toi, vers laquelle nous nous dirigeons. Guide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen.